millions d'années à nous parvenir des étoiles les plus éloignées de notre misérable système solaire et de notre galaxie. Oui, comme de presque tout le reste, sauf le temps, nous savons tout de la lumière, sauf l'essentiel. Nous savons comment ça marche, comment ça fonctionne. Nous savons la capturer, nous savons la conserver, nous savons la décomposer et la recomposer. Nous savons comment nos yeux... Excusez-moi... La reçoivent et comment nous la percevons. Mais nous ne savons pas d'où vient le lien si banal et si fort entre la lumière qui se balade et la vision que nous en avons, ni pourquoi il s'est établi. Ah, bien sûr, c'est tout simple, c'est comme ça. Mais ça aurait pu être autrement. Et il est au moins douteux que le hasard ait suffi à ce miracle. Ni peintre, ni sculpteur, ni musicien d'ailleurs, ni mathématicien, ni physicien, ni astronome, aussi peu doué pour les arts que pour les sciences, j'ai beaucoup aimé la lumière. La lumière du jour le matin m'a toujours enchanté. Je me réveillais de bonne humeur parce que, rayonnante ou couverte, la lumière était là. Elle m'a rendu presque fou de bonheur, plus que les paysages. Plus que la plupart des personnages pourtant souvent enchanteurs ou subtils que j'ai eu la chance de rencontrer. Plus que l'eau, ce miracle. Plus que la beauté des arbres. Plus que les ânes et les éléphants. Plus peut-être que les livres. Plus peut-être même que le ski au printemps. La mer au fond des criques. Plus encore que les femmes qui m'ont donné tant de bonheur en apparaissant, en restant et parfois en s'en allant. Ce que j'ai le plus aimé dans ce monde, où j'ai déjà passé pas mal de temps, le monsieur a 96 ans qui a écrit ça, hein, c'est la lumière. Presque autant que le temps, moins cruelle, plus tendre, moins secrète et moins mystérieuse, mais tout aussi répandue à travers tout l'univers, la lumière m'a toujours semblé murmurer en silence quelque chose de Dieu. Je vous lis maintenant un petit bout du psaume 36, verset 9. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. La lumière est un miracle, mais on pourrait ne pas la voir. Elle pourrait être là, et puis on ne la voit pas. Mais le miracle aussi grand que la lumière, c'est que nous avons des yeux, et puis je ne sais pas comment ça se passe après, mais nous voyons la lumière. Et la lumière nous permet de voir tout le reste, toute la beauté du monde. Et ça fait partie des cadeaux extraordinaires que Dieu nous a donnés, alors dans le monde visible, physique bien sûr. Et vous savez tous, toutes et tous, que Jésus, lorsqu'il était sur terre, a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors c'est Jean qui a été le spécialiste de ce thème, de la lumière, hein. La lumière et la parole, il en parle beaucoup, je ne pourrais pas vous lire tous les versets ce matin. Mais pendant que je suis dans le monde, je suis dans la lumière du monde, il a dit aussi. Et puis, c'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et encore un passage dans Luc 11, 34, et puis on va mettre tout ça ensemble. Les yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. Ce verset fait clairement le lien entre la lumière et le fait de voir. Les yeux sont comme la lampe pour le corps. Et si tes yeux sont en bon état, ben, tu vas bien voir, sinon tu vas marcher dans les ténèbres. Et une des applications qui est très importante pour nous, parce que sur ce sujet-là, vous savez, c'est comme tous les sujets qui parlent de Christ, hein, mais on pourrait partir dans des dizaines et des dizaines ou des centaines ou des milliers de directions, parce que Dieu, la lumière, ça parle de tellement de choses. Mais j'aimerais m'arrêter sur une application particulière de la lumière dans nos vies. Et pour ça, je vous lis encore un dernier verset. Dans 1 Jean 1, 7, « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je le relis. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Quand on pense souvent à ce qu'est une église, hein, je parle d'une église, voilà, une église locale, hein, quelque part, je ne parle pas d'une dénomination en général, on peut à tort penser que c'est des gens qui pensent la même chose et qui se rassemblent pour faire des activités ensemble dans ce domaine-là. Ça, c'est ce qu'on peut voir éventuellement, qu'on pourrait observer, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas l'essentiel. C'est pas ça qui fait l'Église le corps de Christ. Là, il est dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. L'Église, c'est des gens qui sont en communion les uns avec les autres parce qu'ils sont d'abord en communion avec Dieu. Tout le reste, c'est que des conséquences qui peuvent se traduire d'une façon ou d'une autre selon la période, selon la culture, selon les besoins, selon l'époque. Mais l'essence même de l'Église, ce que Dieu a voulu, hein, rappelez-vous, parmi les, il a pas, Jésus n'a pas laissé des centaines de commandements, hein, quand il était sur terre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Pardon. Tout est résumé là-dedans. Et le signe distinctif des chrétiens pour Jésus, ce n'était pas les gens qui se rassemblent le dimanche matin de 10h à midi et qui ont un gros livre sous le bras. Ce n'était pas les gens qui ne vont pas au bal ou qui ne regardent pas la télé ou qui ont les cheveux de telle longueur. Ou qui... Non, c'est des gens qui s'aiment les uns les autres parce qu'ils sont en communion les uns avec les autres. J'ai vécu 14, presque 15 ans, ce qu'on appelle en mission. J'aime pas du tout cette expression parce que tous les chrétiens sont en mission. Mais j'utilise le vocabulaire traditionnel. Hein. Donc je vivais dans un autre pays avec l'argent des autres. C'est ce qu'on appelle quelqu'un à plein temps. Hein, pour voilà, faire ce que je fais ici, mais dans un autre endroit. Et j'étais surpris de voir, parce que j'étais jeune quand j'ai commencé, que la principale difficulté sur ce qu'on appelle le champ missionnaire, ben, ce n'est pas les gens qu'on rencontre, ce n'est pas le travail à faire, c'est les relations dans l'équipe missionnaire. Ça, c'est le plus dur. Et puis, en parlant avec tous les gens qui s'occupaient de missions, même des fois très grandes, alors ce n'est pas des choses qu'on publie dans les lettres de nouvelles habituellement, hein, mais la plus grosse difficulté, c'est ça. Ce n'est pas le travail qu'il y a à faire, c'est que les gens qui sont partis pour le faire ne s'entendent pas entre eux. Alors, il y a plein de raisons, parce que l'être humain est complexe, très complexe, et puis que les relations humaines, c'est la plus belle, mais la plus compliquée des choses sur Terre. Mais souvent, c'est parce que justement, on a mis les choses à l'envers. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, il y a des choses que je répète très souvent. Je pense que c'est l'âge, hein, je commence à me répéter. Mais le fait qu'une chose ne soit pas fausse ne suffit pas à faire d'elle une chose qui est la vérité. Pour qu'une chose soit la vérité, avec, je mets un V majuscule, hein, parce que la vérité, c'est Christ, mais pour qu'une chose soit la vérité, il faut bien sûr qu'elle ne soit pas fausse, mais il faut qu'elle soit à sa place dans le processus de vie qui est le sien. Hein. Souvent, je dis, si on prend une grenouille et qu'on la coupe en morceaux et qu'on met les morceaux dans un bocal de formol, il y a tous les morceaux, mais ce n'est pas une grenouille. C'est tous les morceaux d'une grenouille, mais ce n'est pas une grenouille. Parce qu'une grenouille, c'est vivant, ça marche, ça saute, ça mange des mouches. Je vois le Carmen toujours, hein. Ma spécialiste en animaux. D'accord. Donc oui, tous les morceaux de grenouille ensemble dans un bocal de formol, c'est une grenouille, c'est les morceaux d'une grenouille, mais elle n'est pas vivante. La vérité dans la Bible, ça c'est un enfant, c'est vivant et c'est beau. La vérité dans la Bible, c'est la même chose. Hein. C'est vrai qu'on doit vivre ensemble. C'est vrai qu'on doit faire des choses ensemble ou qu'on peut faire des choses ensemble, mais il faut savoir dans quel sens on le met. Des fois, on s'imagine que c'est parce qu'on fait des activités ensemble qu'on va être unis. Puis on s'aperçoit que ça ne marche pas. Alors, on a des solutions extérieures. Hein. On met du scotch, on met des bandages. C'est-à-dire que, bon, ben, déjà, on est dans un pays où la politesse est une valeur très forte. Alors, même si on est fâché, on ne le dit pas. Et puis quand on le dit, on commence en disant « Je suis reconnaissant de ton intervention, même si elle ne me plaît pas du tout. Hein, donc voilà, on met les formes, ce qui fait qu'on ne s'étripe pas, on ne se coupe pas la tête. Mais ce n'est pas ça non plus. C'est artificiel un petit peu. Et puis ça fait que dès qu'on a fini ce qu'on devait faire ensemble, on n'a qu'un seul souhait, c'est rentrer chez moi pour être ce que je suis et être avec les gens avec qui je suis bien, ce que j'appelle mes amis. Mais c'est triste, parce que je dis pas là par là qu'on ne doit pas avoir d'amis non-croyants, hein, pas du tout, j'ai de très bons amis non-croyants, mais en priorité, la communauté, l'Église, les chrétiens avec qui on vit, ça doit être nos amis, pas exclusivement, hein, dans le sens où on a quelque chose de très fort entre eux. Cet été, Dieu m'a fait un très beau cadeau. J'ai pu retrouver un ami que je n'avais plus vu depuis 14 ans. Et on a passé 2 heures ensemble. C'est court, 2 heures, dans ce cas-là. Surtout quand l'un des deux est très bavard. Je vous laisse deviner lequel. Je me disais, waouh, ça, c'est un cadeau. Ça sera mon cadeau de l'été. On a mangé ensemble. On n'avait pas non plus trop de rattrapage à faire, même si ça faisait 14 ans qu'on ne s'était pas vus. Parce qu'on est amis, on l'a été, on l'est toujours, mais aussi parce qu'on est les deux en communion avec la lumière qui est Christ. À notre façon, à notre rythme, dans des façons de le vivre très différentes d'ailleurs, hein, mais ça ne nous posait aucun problème. Au contraire, c'est de l'enrichissement. Parce que la communion de cet ami avec son Dieu et puis la mienne... faisait qu'on était immédiatement en communion l'un avec l'autre. Et puis, on pouvait partager, échanger, pas être désécurisé par nos différences d'expérience ou d'appréciation, et juste être bien ensemble. Et je fais une petite... c'est pas vraiment une parenthèse, mais j'accroche un petit truc, là, avec ce que Marc nous a partagé, que j'ai beaucoup aimé au début, hein, ce chant, et puis cette réalité qui nous touche tous, que... La vie n'est pas facile, la vie n'est pas gentille, la vie est compliquée, il y a des questions sans réponse, beaucoup plus que de réponses avec des questions. Mais on s'aperçoit avec le temps qui passe qu'il y a justement des choses qui sont précieuses et d'autres qui ne le sont pas. Hein. La communion avec un ami croyant, ça c'est une chose précieuse et qu'on ne nous volera pas. Ah oui, il peut mourir, mais ce qu'on a vécu, on l'a vécu et on va continuer de le vivre dans l'éternité. C'est acquis, bien sûr, l'absence est douloureuse. Hein, mais ces choses-là, c'est les choses précieuses. La joie de vous retrouver ce matin, toutes ces choses-là. Et pour ça, bon, je reviens à mon sujet, on est appelé à vivre dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la lumière? On sait très bien que notre perception est très, très imparfaite. Quand je réfléchis aujourd'hui à comment je concevais la vie avec Dieu quand j'étais un jeune chrétien, et puis il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, je suis surpris. Oh, je croyais ça. Non, que j'étais bête. Hein, et puis si Dieu me prête 10 ans de vie, quand je vais penser à aujourd'hui, je dis, oh, je croyais comme ça. Oh là là. Alors je ne parle pas sur les choses qui ne changent pas, hein, sur Dieu, sur la Trinité, sur la résurrection, sur le fait que la Bible est vraie, mais sur ma compréhension à moi de comment on le vit. Hein. Donc, sachant ça et sachant qu'on est tous différents et qu'on est tous à des étapes différentes de nos vies, comment on peut faire pour être en communion les uns avec les autres et pour vivre dans la lumière? Et j'ai pas toute la réponse à cette question, désolé, mais j'ai quelques petits bouts de réponse pour que vous puissiez continuer d'y réfléchir. Vivre dans la lumière, c'est ne pas se cacher devant Dieu avant tout. Rappelez-vous, quelle a été la première chose, le premier réflexe, j'allais dire, naturel et humain, lorsque nos premiers ancêtres ont désobéi, ont décidé d'être indépendants vis-à-vis de Dieu? Ils se sont cachés. Hein. Assez ridicule d'ailleurs. Hein. Avec des feuilles de figuier, ça devait être charmant à voir. On espère juste que c'était le printemps. Parce qu'à l'automne, ça devient craquant les feuilles. Et puis, ils se sont cachés. Et nous... sommes leurs dignes descendants, héritiers. Hein. C'est ridicule, parce que si on est chrétien, c'est qu'on croit que Dieu est Dieu, et si Dieu est Dieu et qu'il a créé le temps, l'espace, l'univers et toutes choses, comment je pourrais me cacher? Mais on a quand même l'impression qu'on peut se cacher. Hein. Il y a des choses qu'on ne ferait pas à midi, au grand jour, sur la grande place, mais qu'on fait ou qu'on pense la nuit dans le secret de... Voilà, hein. C'est comme ça. Comme les enfants. Hein, vous avez tous ceux qui ont des enfants ou qui ont vu des enfants, vous connaissez ce jeu qu'ils aiment faire. Tu es plus là. Hein, ils ferment leurs yeux et ils pensent qu'en fermant leurs yeux, ils nous font disparaître. Hein. Moi, mes enfants ont tous fait ça et j'adorais ça. Je l'ai fait aussi. Hein. Ah, vous n'êtes plus là. Et on fait la même chose avec Dieu. Hein. Mais quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? Ben, rappelez-vous le verset dans Luc. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Donc ce n'est pas le fait de tout savoir sur tout, parce que ça n'arrivera jamais, et puis c'est comme ça, ce n'est pas grave. Mais c'est le fait d'accepter de vivre dans la lumière de Dieu. Vous savez, dans le Nouveau Testament, Paul utilise un mot qu'on utilise nous aussi en français aujourd'hui, mais dont on a changé le sens, et c'est le mot « sincérité ». Dans le français d'aujourd'hui, être sincère veut dire être honnête. Hein. Si je dis, quand je te dis ça, je suis sincère, ça veut dire ce que je te dis, je le crois réellement. Mais vous savez aussi bien que moi que sincérité et vérité ne sont pas du tout synonymes. Hein. Le nombre de fois où j'étais persuadé que sincèrement, mais j'avais tort, et j'ai arrêté de les compter depuis longtemps. Hein. Donc pour nous, la sincérité, c'est être honnête, ce qui est déjà très important, c'est super, hein. Il faut ça. Mais la sincérité dont parle la Bible est encore beaucoup plus forte. À un moment, je n'ai pas noté le passage là parce que ça fait trop de choses, mais Paul dit, alors qu'on l'accuse de ne pas être un vrai apôtre, etc., il dit, c'est en toute sincérité devant Dieu que j'ai parlé. Et le mot qu'il utilise là pour sincérité, c'est un très joli mot, on n'a pas une traduction exacte, mais qui parle de, c'était quelque chose de technique à l'époque pour tester la qualité d'un cristal. On le mettait devant la lumière, ils n'avaient pas tous les appareils qu'on a aujourd'hui. Et puis un bon cristal, c'était celui qui ne dénaturait pas la lumière qui passait au travers. La qualité de la lumière qui rentrait était la même que celle qui sortait, en tout cas à l'œil nu. Hein. Et lorsque Paul dit « c'est en toute sincérité que j'ai parlé devant Dieu », c'est un mot qui est dérivé de cette pratique-là qu'il utilise. Il ne disait pas juste « je suis persuadé d'avoir raison ». Il disait, je me tiens dans la transparence de la lumière de Dieu et je suis ce que je suis. Puis si ça ne vous va pas, tant pis, parce que je ne peux pas faire autrement. C'est moi et puis c'est la grâce de Dieu qui a fait ça en moi. Mais en tout cas, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. J'ai un petit livre de méditation sur les psaumes qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu, j'étais surpris, mais pas mal de gens qui m'ont contacté pour m'en parler. Et ce qui les a surpris, c'est que dans ce livre, ils ont découvert que des fois j'étais malheureux, que j'y arrivais pas, que des fois j'étais triste, que des fois ci, que des fois ça. Puis ils m'ont dit, oh mais c'est quand même, je croyais que si tu es chrétien, pardon, oui je suis chrétien, il me semble, mais évidemment qu'il y a des tas de fois où ça va pas, des tas de fois où je comprends pas, des tas de fois où je suis révolté, des tas de fois où je suis fâché avec Dieu. Mais c'est pas ça l'important. Ce que je veux, c'est être comme ça dans la lumière de Dieu. Le bon témoignage chrétien, ce n'est pas « je vais bien, tout va bien ». Vous connaissez ce sketch de Danny Boone, hein? Il est complètement déprimé. Puis « je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien ». Puis tout le monde voit que ça va mal, mais moi je dis « je vais bien, tout va bien ». Puis les gens disent « c'est un fou, c'est un schizophrène, il fait semblant, c'est quoi cette histoire ?» Ah mais c'est un bon témoignage, parce qu'un chrétien doit toujours aller bien, puisqu'il est toujours joyeux, parce que Jésus est ressuscité et qu'il ne va pas en enfer. Super. Je suis content de le savoir, moi aussi, mais non, ça ne va pas toujours bien. Mais que ça aille bien ou pas bien, je le vis dans la lumière de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut plus de vie privée. Hein. Il y a des tas de choses qui ne regardent que nous, on les traite entre Dieu et nous, et on ne les étale pas sur la place publique du matin au soir. C'est un autre sujet. Mais la communion avec la lumière, c'est juste de dire à Dieu, c'est moi. Mon père avait un. Je dis toujours avait quand je parle de mon père, alors qu'il est vivant, mais c'est une expression. Un proverbe qu'il aimait toujours, parce qu'il avait beaucoup de proverbes, il disait toujours il y a toujours un côté du mur à l'ombre. Hein, pour dire, ben voilà, hein, c'était une expression du sud où le soleil, on essaie quand même de l'éviter. Quoi. Il y a toujours un côté du mur à l'ombre. Mais dans la lumière de Dieu, il n'y a pas d'ombre. Ça, c'est incroyable. Hein, parce que nous, on n'a qu'un soleil pour nous éclairer, donc il y a forcément toujours un côté du mur à l'ombre, sauf peut-être parfaitement quand il est au-dessus, et encore, selon l'épaisseur du mur, etc. Mais avec Dieu, sa lumière vient de tous les sens, et il n'y a pas un côté du mur à l'ombre. Sauf que nous, nous faisons comme les enfants, nous fermons les yeux. pour nous faire croire que, pour faire croire aux autres que, pour faire croire. Hein. Et quand des gens qui ferment les yeux rencontrent des gens qui ferment les yeux, c'est difficile d'être en communion les uns avec les autres. Hein. Compliqué. Et puis j'ai peur que quand je les ouvre ou qu'eux les ouvrent, et puis ils vont voir que ce n'est pas exactement un co. Mais si je vis dans la lumière de Dieu, et Dieu c'est comme je suis, hein, alors il connaît mes points faibles, mes points forts, il connaît mes erreurs, il connaît tout ce qui ne me plaît pas mais qui est quand même là, etc. Et je vis dans cette lumière et je sais que, comme on l'a chanté, je suis aimé, je suis accepté de lui comme ça. Si je vis ça, alors personne ne vit ça parfaitement tout le temps, hein, enfin, si c'est le cas, venez me trouver après en privé, j'aimerais que vous puissiez m'accorder un entretien pour m'aider, ça m'aiderait. Mais en tout cas, c'est ce qu'on veut vivre et on tend vers ça. Mais quand on vit quand même une partie de nos vies comme ça, on n'a plus peur des autres. Parce que je vis dans la lumière et je sais déjà que je ne suis pas parfait et je ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Et donc, les gens en face de moi ne sont pas des gens qui vont pouvoir discerner mes faiblesses et mes erreurs. Je m'en fous, Dieu le sait déjà et ça me suffit. Hein. Ce n'est pas des concurrents non plus. C'est pas, on n'est pas en compétition. C'est juste d'autres personnes qui, eux aussi, vivent dans la lumière. Alors, ils n'ont pas les mêmes faiblesses que moi, ils n'ont pas les mêmes points forts que moi. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Et lorsque nous sommes en communion avec lui dans cette lumière, alors la communion avec les hommes et les femmes qui vivent dans cette lumière-là, elle est naturelle, elle est simple. Ça m'est arrivé de rencontrer des croyants dans d'autres pays qui venaient de cultures chrétiennes très 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 différentes. Je pense une fois un prêtre orthodoxe que j'avais rencontré en Roumanie ou différentes personnes comme ça. Et puis on se rencontre pour une situation quelconque et en quelques secondes, on dit, c'est incroyable, on dirait qu'on a grandi ensemble, que c'est un ami d'enfance. Alors, je ne parle pas sur les détails culturels, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe et qui est surnaturel, ça s'appelle la communion des saints. C'est nous les saints, hein, parce que Dieu nous a sanctifiés. Et puis, voilà, ça se fait, ça entre en connexion, hein, un petit peu comme aujourd'hui, vous savez, quand vous baladez votre smartphone, vous arrivez dans un pays étranger, et puis vous passez à côté d'une Wi-Fi, et paf, vous êtes connecté. Pourtant, ce n'est pas chez vous, ce n'est pas votre connexion, mais vous êtes connectés comme à la maison avec le monde entier. Ben c'est ça la communion des saints. Parce qu'on on est dans cette lumière et puis paf, on se retrouve connectés. Ça ne veut pas dire que si on devait vivre ensemble, ça serait facile tous les jours. Hein. Mais il y a cette chose-là qui est extraordinaire et nous vivons dans la lumière. Alors la seule petite exhortation que j'ai pour nous ce matin, c'est ne fermons pas les yeux en croyant que ça va faire des ténèbres et qu'on pourra s'y cacher dedans. Parce que de toute façon, les ténèbres existent, mais Dieu est dedans aussi. C'est juste nous qui ne voyons pas, lui, il y voit aussi, aussi bien que dans la lumière. Mais acceptons de marcher dans cette lumière. Quand j'ai tort, ben, j'ai tort. Quand je n'y suis pas arrivé, ben, j'y suis pas arrivé. Quand j'ai échoué, ben, j'ai échoué. Je confesse ça à Dieu, et puis je continue. C'est pas pour ça qu'il m'aime plus ou moins, ça n'a rien à voir, c'est à cause de l'œuvre de Christ. Et puis, on va s'apercevoir que la lumière est belle et ça va amener la louange dans nos vies. Là aussi, souvent, on fait les choses à l'envers. On veut louer Dieu, alors on essaie de louer Dieu, alors on loue Dieu, et puis on dit qu'on loue Dieu, et puis on dit des mots. Et puis, ben, voilà, des fois c'est bien, des fois c'est mieux que rien. Mais la louange que je préfère, la vraie, c'est celle qui est la conséquence du fait que mes yeux voient Dieu. Et comme il se trouve dans beaucoup de choses, pour moi, mes plus beaux moments de louange, j'ai souvent dit, un d'entre eux, c'était quand j'ai vu la marche de l'empereur. Et je me suis dit, c'est mon Dieu qui a fait ces bestioles-là. J'ai loué Dieu pendant une heure, c'est extraordinaire. Mais quand je conduisais hier matin à 5h du matin et que j'ai vu le soleil se lever sur le mont Ventoux, et j'ai eu 2 heures de louange, c'est extraordinaire. Parce que cette lumière-là me faisait penser à cette lumière qui se lève dans mon cœur quand je suis désespéré, quand c'est difficile, quand c'est... Et là, la louange, elle est là, hein, elle sort. Et puis, lisez, relisez les psaumes et vous verrez que c'est que ça. C'est l'histoire d'êtres humains complètement imparfaits qui ont fait des choses terribles, qui ont raté plein de choses, mais qui sont juste honnêtes, qui vivent dans la lumière et puis qui disent, ce matin, mon âme est désespérée, j'en peux plus, je suis dans le trou. Ah, puis, oh, et j'ai vu la lumière. Bon. Ah, j'ai vu la lumière. Non. Mais ouais, et il m'a sorti de là. Et maintenant, je vois, beauté parfaite. Et puis, voilà, c'était un poète, c'était David, hein, ou d'autres. Mais c'est comme ça que ça fait partie de nos vies et que notre témoignage va être fort si nous vivons comme ça, parce que ça sera vrai. On ne va pas, voilà, dimanche matin, on fait semblant, on est des bons chrétiens. Bonjour frère, ta vie me remplit d'allégresse. Moi aussi, merci, au revoir. Hein, je repars jusqu'au dimanche prochain. Vous connaissez ce petit livre de blagues chrétiennes qui s'appelait Crise de foi. Et puis, il y a un homme, une femme dans la voiture. Et puis, le gars, il conduit, il est comme ça. Et la femme lui dit, chérie, tu peux arrêter de sourire, on n'est plus à l'église. C'est horrible, hein. Mais il y a quelque chose là derrière. Il y a beaucoup de choses comme ça. Non, juste on vit dans la lumière et puis ben, voilà. Ça va ce matin? Non, ça va pas. Ah, on n'aime pas dire ça, hein, parce que pourquoi ça va pas? Non, ce matin ça va pas. Ce matin ça va, oui. Mais l'un et l'autre, c'est vivre dans la lumière. Alors, nous aussi aimons la lumière, accueillons-la, remercions Dieu pour nos yeux, pour la lumière, pour la capacité de la voir, et pour le fruit que ça produit, qui est le fait que nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Et peu m'importe vos opinions sur quel fromage vous préférez, comment vous votez en politique, si vous préférez le foot ou le hockey, si vous aimez la mer ou la rivière, ou plutôt la montagne, on s'en moque. Dieu a voulu de la diversité. Mais nous marchons dans la lumière et nous sommes en communion les uns avec les autres. Et si nous péchons, le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Seigneur notre Dieu, merci pour la beauté de la lumière et parce que c'est juste une image faible de la lumière que tu es, toi, qui est la source de toutes choses. Merci parce que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et nous voulons que cette vérité soit vraie à l'intérieur de nos cœurs, que les yeux de nos cœurs se tournent vers ta lumière et que nous acceptions de vivre avec le moins d'ombre possible dans nos vies, afin que nous puissions être dans la joie de la communion avec toi et de cette communion qui produit la communion les uns avec les autres. Merci pour ta vie en nous, merci pour ce miracle de la vie. Et au milieu des difficultés, des incompréhensions, tu es là et tu nous éclaires et ta lumière nous réchauffe aussi, nous fait du bien, nous permet de vivre. Alors sois loué, sois glorifié, sois remercié pour tout cela, Seigneur.